Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous. Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs. Ce soir, je suis avec Ludo. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Christophe.
Bonsoir à tous et à toutes.
Thierry qui est venu nous rejoindre.
Bonjour. Bonsoir.
Thierry. Gilles au micro et bien sûr Claude à la technique depuis le début de cette émission il y a 12 ans et qui est toujours avec nous ce soir. Alors c'est une émission qui va être intéressante puisque nous allons parler donc des accords paritaires signés par qui vont être signés le 31 du mois par le MEDEF et les syndicats. Donc il y aura FO, CGC, CFTC, CFDT qui apparemment vont signer cet accord relatif à la modernisation du marché du travail. Et donc, ils vont parler principalement de la rupture à l'amiable, le CDD de mission et la période d'essai, a priori. Nous parlerons également, bien sûr, d'un très grand plan social en France qui est un peu méconnu. Et puis, bien sûr, les sujets qu'on a déjà débattus ici, donc la fusion ANPE-UNEDIC, la répression sociale prise à la racine, et puis, évidemment, des décrets qui vont avoir lieu sur l'évaluation des biens des RMistes. Une bonne émission, a priori, qui va se faire aujourd'hui. Très bien, alors on va commencer, Ludo, sur ces accords paritaires qui vont être signés le 31 du mois, le 31 donc, janvier. Apparemment, 4 syndicats sur 5, hein, puisque MEDEF a signé, lui, puisqu'il est à l'origine du projet, vont signer cet accord. Sur quoi portent effectivement ces modifications?
Alors effectivement, c'est un accord qui doit être signé entre les organisations syndicales et patronales le 31 janvier du mois et qui doit ensuite être présenté au gouvernement, qui doit donner son agrément et qui doit le faire passer au Parlement pour introduire des modifications législatives, en fait, agréer de manière législative cet accord et introduire les ruptures dans le Code du travail qui ont été provoquées par cet accord. Donc, notre code du travail va encore changer. Et a priori, si tout se passe comme prévu, désormais, nous aurons la possibilité de quitter notre patron bien-aimé sans qu'il nous mette à la porte ou sans déposer un licenciement. Et donc, évidemment, réciproquement, en fait, le patron peut évidemment se débarrasser de nous. Alors, comment ça s'appelle la rupture conventionnelle? C'est-à-dire que elle permet à un patron donné à un moment donné de procéder à une transaction. C'est-à-dire c'est ce qui se fait déjà chez les cadres, on va dire, où pour se débarrasser d'un salarié, on préfère lui signer un gros chèque et il s'en va. Mais il avait jusqu'à maintenant la possibilité d'un recours juridique devant les prud'hommes. Et donc ça, ça va disparaître puisqu'on veut légaliser ce type de départ et autoriser le patron et le salarié à signer un accord qui ouvre des droits à l'indemnisation et d'une part, et puis qui d'une autre part élimine tout recours juridique pour l'employeur.
Juste une chose, est-ce qu'il y aura également des clauses de non-poursuite éventuelles, éventuellement de confidentialité, etc.
Alors, de confidentialité, non, puisque en principe, c'est simplement une indemnité de licenciement. Hein, on touche les indemnités légales. Elles ont été d'ailleurs plus ou moins... Alors, les indemnités, c'est intéressant, ont été étendues aux salariés qui avaient été embauchés depuis moins de 5 ans. Puisque vous savez que jusqu'à maintenant, c'était l'indemnité de départ était calculée sur l'ancienneté du salarié. Désormais, on aura une droit tous à la même indemnité. Mais par contre, ceux qui sont perdants sont ceux qui ont plus de 5 ans d'ancienneté, puisque eux voient leur indemnité même, en fait.
Réduite, finalement.
Voilà, réduite, moins l'ancienneté. Passé le délai de 15 jours, la rétractation n'est pas possible. Donc, le recours au prud'homme n'est pas possible. Par contre, il y a effectivement la rupture doit être donc de contrat, enfin l'accord de séparation doit être homologué par la direction départementale du travail sous les 15 jours. Donc ça fait un délai très court et ça fait qu'effectivement il y a peu de chances que les directions départementales du travail vérifient la enquête en quelque sorte sur le
sur la validité éventuellement du
voilà ou sur les pressions éventuelles qui auraient été exercées auprès des salariés, parce qu'en réalité c'est là que se situe le problème, comme le rappelait très bien la CGT, c'est qu'effectivement c'est une pratique qui se fait très couramment chez les cadres, très très couramment, mais il faut rappeler quand même que le droit du travail a été fait parce que a été conçu, enfin le contrat a été conçu parce que le salarié n'est pas en situation équilibrée par rapport au équitable par rapport au patronat, c'est toujours enfin à son patron, c'est toujours le il dépend du patron, et donc le rapport de force lui est évidemment défavorable. Alors là on traite les deux parties comme des partenaires. Or le problème c'est que finalement il suffit parfaitement il suffit au patron de faire pression sur le salarié, de faire une pression psychologique assez forte pour s'en débarrasser, pour que ce dernier, travaillant dans des conditions très difficiles, se décide à partir. Et enfin, se décide à accepter l'accord transactionnel, ce qui permet quand même au patron de payer un peu moins. Parce qu'autrement, il doit payer un licenciement économique, et ça lui permet donc d'éviter le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Parce que c'est ça la loi française, on ne peut pas licencier sans cause réelle et sérieuse, donc licenciement économique, faute grave, faute mais pas comme ça, pas de départ. Donc ça leur permet de contourner la loi. Et puis on peut très bien imaginer qu'un patron finalement, pour payer encore moins, il peut simplement pousser son salarié à la démission. Quand dans le cas où il n'a pas envie de se débarrasser de son salarié, où ça l'embête son salarié le parti, il le pousse à la démission, et comme ça le salarié n'encaisse pas d'indemnité de licenciement.
D'accord. Très bien. Alors il y a juste une chose par rapport donc Christophe, tu veux intervenir?
Oui, je voulais dire une chose, c'est que je vais de nouveau dénoncer ce qui est cette pratique courante de l'accord transactionnel. Il faut pas oublier que dans le code du travail, ce qu'on appelle la faute lourde. Alors la faute lourde, c'est avoir causé des dommages sur l'intégrité physique au sein de l'entreprise ou avoir cassé la figure à son patron, ce qui est très rare. Mais j'imagine fortement le préjudice suivant, la manip suivante, parce que la relation de subordination entre le patron et l'employeur n'est absolument pas une relation égalitaire. Donc ce qui va se passer, c'est je veux me débarrasser de quelqu'un qui obéit à une convention collective selon un coefficient de salaire établi par sa profession. Et je veux le payer moins. Donc je vais lui dire, mais écoutez, mon cher monsieur, si vous refusez que je vous paye moins, je vous licencie et je vous reprendrai un autre contrat. Et de toute façon, si vous ne voulez pas obéir, nous irons au prud'homme pour faute lourde, ce qui veut dire que vous n'aurez pas pendant plusieurs mois vos indemnités de chômage et encore moins vos indemnités de licenciement. Évidemment, quand on a ensuite les huissiers à la porte faute de ressources, parce que là on se retrouve avec zéro, ça amène à réfléchir et donc ça fait que le licenciement de fait se fait. Donc les salariés les plus précaires, mais aussi les cadres, auront une pression supplémentaire qui ne sera pas liée simplement à l'obligation de résultat, mais à la relation entre l'employeur et l'employé. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la culture du narcissisme où en fait la notion de compétence va être supplantée avec la notion de bonne relation ou de bonne sociabilité entre l'employeur et l'employé, ce qui est
tout à fait, oui.
Ce qui peut dans le domaine de l'organisation des entreprises être totalement contre-productif, parce que si vous avez par exemple un chef d'entreprise ou même un simple responsable de service qui n'est pas compétent, qui accumule les erreurs, il pourra user de ce pouvoir exorbitant qui est le licenciement à l'amiable pour ne pas se remettre en cause, et ça ne résoudra aucunement de problème. Donc on va être dans l'absurdité.
Juste une chose, c'est qu'à compétence égale, effectivement, le patron préférera effectivement quelqu'un qui soit aimable, sympathique, a priori, hein, que quelqu'un qui fait sa forte tête.
Et surtout malléable. Mais c'est marrant ce que dit Christophe, parce que finalement, aujourd'hui, c'est souvent le cas. Quelle que soit la compétence des gens, on préfère avoir des bonnes relations avec ses subordonnés.
La concorde, quoi.
Exactement. Ouais. Et donc, de fait, les relations de travail sont souvent tellement détériorées que on en vient à vouloir se débarrasser très facilement de n'importe qui pour n'importe quelle raison. Mmh. Et bon, dans certains cas, c'est vrai que le contraire est parfois vrai, mais c'est vrai que ça vient du salarié. Le salarié veut lui-même rompre le contrat, mais c'est quand même beaucoup plus rare.
Thierry, tu voulais intervenir?
Oui, je voudrais intervenir, surtout pour me poser une question, parce que ça me paraît un peu ambigu. Comment ils vont faire pour ceux qui ont des parts dans l'usine qui touchent des parts en usine et est-ce qu'ils vont essayer de, le patron va essayer de dire, ben, je vais essayer de le faire partir lui-même en l'agaçant un peu parce que les parts, il va en toucher trop et après,
Franchement, là, c'est des cas très particuliers qui concernent les PME et alors, c'est vrai que c'est une question quand t'es associé, est-ce que t'es salarié? Je crois pas que tu aies certaines garanties de sécurité, mais c'est vrai que c'est une question intéressante, hein, parce que tu peux effectivement avoir des parts et quand même avoir un contrat, mais enfin, je suis pas certain que ça rentre dans ce cadre-là.
Les ouvriers qui ont des parts dans l'usine.
Oui, bien sûr, oui, un intéressant. Oui. Mais enfin, bah, tu peux être propriétaire de ton usine et puis être viré. Hein.
Absolument, par les actionnaires, d'ailleurs. Oui.
Non, mais tout ça ressort de l'idéologie du syndrome de l'ennemi, à savoir que le salarié n'est plus un collaborateur d'un projet industriel ou économique, voire d'emploi de service, mais un danger. Enfin, c'est dans quel monde vit-on ?
Un danger potentiel.
Voilà,
c'est
extrêmement grave. Très bien.
Alors, est-ce que dans cette loi, il y a des choses... Alors, faut parler peut-être des CDI. Enfin, a priori, c'était le but de ce projet, c'était de faire des CDI, en fait. Hein. Donc, il y a maintenant des CDD de mission. Alors,
les CDD de mission, c'est réservé, encore une fois, à nos amis les cadres. Alors, je dis encore une fois, bien que la rupture à l'amiable ne soit pas réservée aux cadres, et qu'elle soit appliquée à tout le monde, mais qu'elle soit plutôt pratiquée chez les cadres. Donc, le CDD pour de mission, ou pour objet défini au contrat, c'est un peu compliqué, c'est la forme juridique, est effectivement exclusivement réservé au cadre. C'est un contrat avec des parts expérimental. Et c'est vrai que le MEDEF voulait en faire un CDI. Un CDI, donc d'une durée minimale de 18 mois, passé pour un projet professionnel d'entreprise. Mais passé cette période, il pouvait se débarrasser, d'après la première rupture du texte, de son salarié quand il voulait. Quand il l'entendait. Alors c'est devenu un CDD, mais c'est un CDD un peu particulier, donc c'est un minimum de 18 mois et d'un maximum de 36 mois, donc ce qui fait en fait un an, de 1,5 à 3 ans.
Renouvelé une fois, quoi.
Alors, il n'est pas renouvelé, en fait, hein, mais à la date anniversaire de la signature du contrat, on peut se séparer de son salarié pour cause réelle et sérieuse.
Il est renouvelé automatiquement, mais on peut s'en séparer.
Voilà, il est renouvelé automatiquement, mais on peut s'en séparer tous les ans, en fait, jusqu'à la fin du contrat. Et puis, ce qui est peut-être un peu plus embêtant, c'est que finalement, comme il n'est pas à durée définie, en réalité, puisqu'il est lié à la tâche professionnelle que tu vas accomplir. Donc c'est une notion qui est toujours bien floue, même si elle doit être précisée dans le contrat, et ça permet tout à fait à l'employeur, finalement, d'après la mouture du texte, hein, de se débarrasser de son salarié quand il en a envie, finalement, passer la période de 18 mois compressible. Donc c'est, encore une fois, on rentre dans des contrats qui sont un peu flous, parce que on pourrait parler du CNE et du CPE, où on définit des CDI, on veut des CDI ou des CDD, mais qui n'ont pas réellement, mais où les gens sont virables à tout instant. Ce qui fait que la période de contrat définie fixe réel n'existe plus de fait. On vide de sa substance au contrat. Alors là, on a bien 18 mois garantis, mais que se passe-t-il après? Alors la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça va être par accord négocié par entreprise et par branche, et que c'est peut-être là que ça va se discuter. Mais du coup, l'application du texte demande à être surveillé, parce qu'on c'est vraiment une façon de précariser le salarié.
D'accord. Qui ça?
Oui, je voulais signaler l'absurdité de ce flou juridique et de cadre de ce type de contrat de travail. Parce que imaginons un salarié qui est engagé pour tout ce qui est procédure administrative de liées aux catastrophes naturelles. Hein. Ça peut être un besoin de l'État ou d'entreprises privées qui vont gérer ce type de choses, comme par exemple les compagnies d'assurance. Et là, en France, il y a une série de catastrophes naturelles qui se déclarent. Donc la personne va avoir ses CDI à objet de mission précisée renouvelée, mais comment elle va pouvoir, par exemple, s'installer dans sa vie et faire des emprunts contractuels auprès des banques pour, par exemple, acheter un bien, alors qu'elle sera dépendante, en fait, de son objet de mission. Enfin, c'est une épée de Damoclès.
Oui. Là où ça pose un problème, c'est que ce projet a été a priori fait pour avoir des CDI derrière, c'est-à-dire que on remplaçait les... Non, c'était pas vraiment ça le
Bah écoute, c'est une bonne question, on n'en sait rien.
Puisque la question, finalement,
le problème, c'est qu'on, a priori, dans la première mouture, le contrat n'était même pas renouvelable.
D'accord.
Alors, donc effectivement, s'il n'est pas renouvelable, bon, certes, tu peux embaucher quelqu'un à un CDI, mais c'était même pas dans la déclaration d'intention. Et alors, c'est vrai que moralement, ce que dit la CGT, c'est vrai, c'est-à-dire que, bon, t'as un boulot, tu accomplis ta mission, tu as été super bon. Et pendant que, comme toute entreprise tire un peu te paye, mais prend un peu la plus-value de ton travail, on va dire, comme aurait dit Karl Marx. Et ben, pendant que l'entreprise finalement engrange, on va dire, un surplus de bénéfices grâce à ton travail, toi, ta mission finie, tu prends la porte.
Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
Oui, je voudrais savoir si dans les textes, ils ont prévu les contrats actuels, donc quelqu'un rentre en formation dans une entreprise, est-ce qu'il aura le droit de démissionner lui aussi, comme les autres?
Écoute, c'est une très bonne question. Pour les gens qui sont en formation, en principe, ils sont en formation et c'est pas l'entreprise qui est garante, mais c'est leur organisme de formation. Et dans ce cas-là, c'est leur formation qui s'aborde. Cela dit, il y a beaucoup de cas, effectivement, de formation en alternance où l'entreprise ne faisant pas l'affaire, l'apprenti cherche une autre entreprise. Absolument.
Très bien. Tu parlais tout à l'heure. C'est une très bonne, Tu parlais tout à l'heure du CPE et du CNE, donc les gens étaient dans la rue pour la question des deux des périodes d'essai très très longues. Alors dans ce cas de ce projet, la période d'essai c'est de combien alors finalement?
Écoute, malgré la désinformation dont vous êtes victime, ne vous faites pas d'illusions, la période d'essai a bien été rallongée. Et pourquoi elle a été rallongée? Malgré la bataille acharnée des syndicats, c'est parce que elles sont toutes renouvelables. Les périodes d'essai sont désormais renouvelables une fois, ce qui implique dans les périodes d'essai, une période d'essai par exemple de 8 mois maximum pour les cadres. Voilà, donc 4 mois renouvelables, 4 mois. D'accord. Donc elle a effectivement été allongée d'un mois. Donc ça fait aussi 6 mois pour les techniciens et 4 mois pour les ouvriers. Donc ça n'a l'air de rien, mais 4 mois pour un ouvrier, c'est beaucoup, puisqu'on a le temps de vérifier assez vite quand un ouvrier est efficace. Absolument. Même si pour les techniciens, c'est énorme. Et donc, effectivement, on n'est pas tout à fait au CNE parce que c'était 2 ans, mais certes, les périodes d'essai, et alors, c'est des périodes d'essai interprofessionnelles, c'est-à-dire qu'on veut qu'elles soient par statut, donc cadre, technicien, ouvrier, mais qu'elles soient là pour toutes les branches, puisque jusqu'à maintenant, chaque branche avait sa propre définition de la période d'essai, quoi.
D'accord. Je te remercie, Ludo. Alors, on va parler d'autres choses, mais on va se faire encore un peu de mal, hein, puisqu'apparemment, il y a. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose?
Oui, je voulais juste rajouter que ces mesures sont quand même, donc, de modification du contrat de travail, sont à mettre en parallèle, en fait, avec la réforme des prud'hommes qui a eu lieu et qui aura encore lieu, qui est discrètement effectivement en cours et que. Les voies de recours pour les salariés deviennent quand même beaucoup plus compliquées. Alors je m'explique, donc pour mémoire, il y a à peu près 20% des tribunaux prud'homaux qui ont été supprimés avec la réforme de la carte judiciaire. Et les accords qui ont donc été signés ont introduit la notion de conciliation auprès des prud'hommes. Donc ce qui concrètement alourdit la procédure, puisqu'il faudra désormais saisir le bureau de conciliation avant de saisir le bureau de plainte du prud'homme. Tout ça après avoir bien averti son employeur auparavant par une lettre commandée. Donc ça fait trois petites démarches administratives. Et par ailleurs, le projet d'accord demande aux législateurs, donc à nos députés, de fixer un plancher et un plafond du montant des indemnités en cas de donc contestation devant les prud'hommes. En réalité, hein, c'est pour les licenciements donc litigieux sans cause réelle et sérieuse. Donc en résumé, la procédure actuelle décourage par sa longueur déjà de nombreux salariés de recourir aux tribunaux. Mais aujourd'hui, les délais et les procédures s'alourdissant pour de bien moindres conséquences financières, enfin pour de bien moindres indemnisations financières. Donc voilà, désormais, il faudra probablement attendre au moins 3 ans minimum pour aller au bout de sa plainte.
Donc encore, on est encore dans les lourdeurs administratives supplémentaires.
Non mais en fait, à la limite, le projet du gouvernement, via la suppression des prud'hommes, a tout fait pour compliquer le recours. Non mais le recours du salarié aux prud'hommes. Absolument. Et c'est des façons aussi d'arranger le patronat.
D'accord. Très bien. Alors juste avant de passer au sujet qui suit, c'est bien sûr par rapport à ce texte, à ces accords. Qui vont être signés donc le 31 janvier. Nous avons donc mis en ligne, donc allez-y tous, allez-y signer, parce que c'est vraiment très 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 important, parce que c'est le droit du travail qui est mis à mal. Donc allez donc signer cette pétition sur pourdesdroitsnouveauxattachés.org. Signer cette pétition, c'est vraiment très important, ça vous prend 2 secondes. Et vous avez également sur notre site à nous, donc mode d'emploi, donc c'est modeemployeur-d-emploi.net, le lien qui vous permet de signer également cette pétition. Allez-y nombreux, parce que plus nombreux nous serons, et plus nous pourrons éventuellement peser dans la balance. Et c'est important. Très bien. Alors, quelque chose qui fâche encore Christophe, quelque part, c'est apparemment aujourd'hui, il y a un grand plan social en France qui est un peu méconnu et que personne n'a entendu parler. Même la presse n'en a jamais dit un mot, enfin, a priori. Peut-être que si. D'ailleurs, tu vas nous le dire maintenant. Alors, c'est par rapport aux enseignants, c'est ça, non?
Et oui, effectivement, c'est un article d'Actu Chômage qui nous apprend que l'histoire suivante, en septembre 2004, un matin comme les autres, vous vous réveillez et là, votre poste et votre emploi a disparu. Donc ça peut paraître étonnant, votre employeur ne vous laisse même plus pénétrer dans ses locaux, vous envoyez donc un curriculum et une lettre de motivation, et la seule réponse que vous avez via les messageries téléphoniques, c'est « on vous rappellera ». 3 ans après, on vous a toujours pas rappelé, vous êtes aux minima sociaux et les agents de la NPE ne peuvent vous reconvertir nulle part. Ils se demandent d'ailleurs ce que vous faites là et ouvrent des yeux ronds en leur racontant leur histoire. Alors, cette histoire, c'est quoi? Bah, c'est le fait, tout simplement, que Monsieur Fillon a décidé d'éradiquer près de 30 000 professeurs non titulaires de la fonction publique de l'éducation nationale, ce qu'on appelle les maîtres auxiliaires, des gens qui ont un statut plus que précaire dans la fonction publique d'État au niveau de l'éducation nationale, puisqu'ils sont moins payés que les autres, et non seulement ils sont moins payés que les autres, mais en plus avec des mécanismes budgétaires, ils sont parfois obligés d'attendre leur premier salaire 5 mois après le début de leur mission, voire parfois 6 mois et 1 an dans certains cas exceptionnels. Donc, la conséquence de cette aberration, c'est que vous n'avez pas de statut légal, personne ne peut vous défendre véritablement, et en plus, vous êtes des milliers répartis sur tout le territoire, et malgré vos beaux diplômes, parce que là, on parle de gens qui sont Bac plus 3, plus 5, voire plus 8, et une expérience professionnelle dans l'éducation nationale qui est quand même assez conséquente, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans une logique tout simplement libérale, vous avez servi de ce qu'on appelle de variables d'ajustement, donc d'économie de bout d'échelle. Vous avez bien sûr travaillé au noir pendant des années avec les bénédictions de l'État qui vous avaient fait effectuer des dizaines de CDD successifs avec quasiment une période de 7-15 ans, on peut dire les choses comme ça. Le droit du travail, le respect des principes du CDD-CDI n'est pas passé par vous. Et la seule réponse que l'État vous donne, c'est passez les concours, faites la queue comme tout le monde. C'est la seule réponse qu'on vous donnera. Et au final... La réalité très réduite dans les médias aujourd'hui, c'est vous entendrez parfois le ministère de l'Éducation nationale se réjouit de la disparition du personnel précaire dans l'éducation. C'est une véritable avancée sociale. Donc je vous laisse
méditer là-dessus, c'est important. Oui, voilà. Ludo.
Oui, je voulais juste préciser que effectivement, en fait, le contrat de droit privé est un contrat de droit privé et il ne s'applique pas à l'État.
Absolument.
Et donc l'État a parfaitement, en fait, s'autorise d'ailleurs ce qu'il interdit au privé, c'est-à-dire entre autres de faire signer des CDD à répétition jusqu'à un nombre effectivement de 150 000, d'utiliser des vacataires et de ne pas être tenu de leur fournir du travail quand le contrat se poursuit hein, et qu'ils ont effectué leurs tâches. Et que, statistiquement, c'est tout simplement le premier employeur précaire de France.
Absolument. Et d'ailleurs, suivent également des grandes villes comme Paris, avec les travailleurs, les animateurs de la ville de Paris. Hein,
absolument.
Qui sont effectivement renouvelés tous les ans, mais sur des vacations, c'est une montre.
Voilà. Quoi. Ne faites pas faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Tout à fait. Ben, on va se remonter le moral avec une petite chanson et ensuite on reprendra la parole. Merci.
Le piano du pauvre se noue autour du cou. La chanson qui mauve, Toscani, il s'en fout. Faire marcher le commerce.
Bonsoir à nouveau, c'est toujours l'équipe de Mode d'emploi au micro. C'était donc le piano du pot de Léo Ferré, chanté par Jacques Delgère, un ami à Nard, à nous. Donc nous reprenons cette émission avec quelque chose qui encore qui ah oui, le numéro de téléphone bien sûr, merci Thierry. Le 01 40 05 06 10 01 40 05 06 10 si vous voulez intervenir dans cette émission et dire ce qui vous fâche ou ce qui vous ravit, il y a pas de souci, c'est une libre antenne, tout le monde peut parler dans ce micro et au téléphone. Très bien. Donc, on va parler de la fusion NPE Unédic, Ludo. C'est l'exemple. Donc, il y a eu un rapport du Parlement sur l'exemple britannique. Alors, apparemment, il y aurait une chasse aux sorcières un petit peu là-bas, une chasse aux chômeurs.
Oui, on a tous entendu parler, n'est-ce pas, du du détecteur de mensonges appliqué aux chômeurs. Alors, sans aller jusqu'à là, il faut savoir qu'en fait, toutes nos réformes actuelles, notamment le contrôle des minima sociaux et le contrôle des chômeurs, le projet de décret de contrôle des chômeurs, sont inspirés de l'exemple anglais. Dans ce fameux rapport, dont le fameux rapport parlementaire qui est en 2007 a fait l'exégèse, on va dire. Voilà, et donc l'idée étant de comparer ce qui se faisait en France et en Grande-Bretagne. Donc, il faut donc l'idée du guichet unique, hein, c'est le guichet unique pour, qui pour les ascédiques et la NPE pour le chômeur est né donc de ce rapport-là. Et c'est vrai qu'on peut se poser à la lecture de ce rapport, on peut se poser une question, c'est qu'est-ce que ont donc de plus que nous les Anglais? C'est toujours une éternelle question que se sont longtemps posées les Français. Et donc, à la lecture moi-même donc des quelques lignes s'y rapportant, j'ai eu la réponse et l'illumination, c'est qu'ils sont beaucoup plus franco de port que nous. Ils sont, on dirait en anglo-saxon, ils sont plus cash, ils sont plus directs. Ouais. Et en fait, ça se résume à deux, trois petits trucs. Leur recette, c'est 1, l'administration, il y en a beaucoup trop. 2, les jeunes sont des fainéants. 3, on va mettre de l'ordre là-dedans et tout le monde au boulot. Donc
tout le monde au pas, tu voulais dire en fait. Hein.
Voilà, c'est ça. Ouais, par le travail, par le travail. Alors sous cette forme de boutade, c'est un peu ce que contient le rapport. L'administration, il y en a trop. Ben oui, puisqu'en fait, c'est les agences de prestations sociales et de la NPE anglais, respectivement appelées les Benefit Agency et les Job Center, qui ont fusionné en 2002 et ce qui a créé effectivement le guichet unique pour toutes les prestations sociales. Ça veut dire, en France, en fait, c'est comme si on associait le guichet de la SEDIC avec le guichet de la CAF. Ce qui donne, en fait, le moyen de contrôler toutes les prestations d'un seul coup reçues par le chômeur.
Donc, il n'y a même plus besoin de croiser les fichiers. Là, tous les fichiers sont au même endroit.
Tous les fichiers sont là. Une seule allocation, y compris les aides municipales, hein. Donc, ça, d'accord. Voilà, c'est un traitement simple. Voilà. Oh,
ils font très, très fort, hein.
Alors. Évidemment, la contrepartie, c'est aussi que le chômeur, le demandeur, est beaucoup mieux contrôlé, en fait. Plus suivi et plus contrôlé. Donc, notre ami chômeur, qui à la fois touche ses prestations, va toucher ses prestations, signe un contrat, il doit se présenter physiquement tous les 15 jours, et il encourt une sanction possible de la part de sur ses indemnités, tout type d'indemnité, de la part de l'organisme le contrôle. En outre, donc l'organisme d'indemnisation a une vision donc de toutes les allocations, comme je l'ai dit, et elles peuvent toutes être mises en question, sauf l'allocation logement. Et voilà, ce qui permet de dire que finalement c'est un système très humain, n'est-ce pas? Alors je parlerai plus tard du montant minimal de l'allocation chômage et vous allez du montant unique et ça va pas vous faire rire du tout parce que c'est un peu triste. Donc ça rigole pas du tout puisque les résultats sont accablants. Enfin. Pour les chômeurs, s'entend, puisqu'un quart des demandeurs sont sanctionnés, dont 41%, donc surtout, hein, en tout, un quart des chômeurs en Angleterre sont sanctionnés. Voilà, 41% le premier mois. C'est-à-dire que ça dégage, et les principales victimes sont évidemment les jeunes, puisque 42% des sanctions concernent les jeunes qui ont entre 18 et 24 ans, sachant qu'ils ne représentent à peu près que 28% des chômeurs. Donc c'est eux qui dégustent en premier. Le rapporteur français du rapport parlementaire en conclut bien entendu que notre système à nous est totalement inefficace puisque selon ces chiffres 1% des chômeurs seraient concernés par les sanctions en France. Alors là on voudrait faire juste une petite remarque, c'est que notre cher rapporteur a peut-être confondu les sanctions réelles appliquées qui sont effectivement très minimes et les radiations administratives
qui sont massives
puisqu'on en compte nous 14 000 par mois. Oui, c'est vous dire que ça dégage sexe et c'est pour n'importe quel prétexte. Alors après et là c'est pas forcément comptabilisé comme sanction. Donc
est-ce qu'ils veulent faire ça en France ou c'était dans
non mais ça c'est ce qu'ils font ce que je viens de donner là les chiffres c'est ce qu'ils font en France.
Oui, pardon,
évidemment
pardon.
Qu'ils ont envie de s'inspirer de du modèle anglais à travers la fusion NPE Unédic le décret de contrôle des chômeurs.
J'ai bien compris.
Voilà. Donc, comme je le disais, il s'agit de durcir en France les sanctions contre les chômeurs. Le problème, c'est qu'on n'a pas de critères d'emploi valable. Je vous rappelle que le projet de décret de contrôle des chômeurs et de radiation interdit aux chômeurs de refuser deux fois de suite un emploi valable. Mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, on allait voir toujours au Royaume-Uni pour voir. Et la définition du type d'emploi que le demandeur peut rechercher. Mais ne pas refuser en en Angleterre, eh bien, doit être définie avec son référent ANPE. Et une fois qu'elle est très définie, il ne pourra pas refuser ce type d'emploi. Et il doit faire la preuve, lors du premier entretien, qu'il peut trouver un emploi dans le même domaine qu'il a déjà trouvé, où il était avant. Hein. C'est-à-dire que s'il peut pas faire la preuve qu'il va retrouver du boulot tout de suite, dans ce type de secteur, il va falloir qu'il cherche autre chose. Et quoi? Alors, on sait pas. Mais dans tous les cas, il ne peut se tenir à ce type d'emploi que pendant 13 semaines, avant de devoir ensuite chercher un peu plus au large, un peu plus de trucs. Et quoi qu'il en soit, au bout de 6 mois, il ne peut plus refuser un emploi en raison de la rémunération plus basse que celle qu'on lui a déjà proposée. Donc au bout de 6 mois, il prend n'importe quoi. Voilà. Alors, je voudrais juste faire un rappel, c'est que le montant unique de l'allocation chômage au Royaume-Uni, quelle que soit son ancienneté et son salaire précédent, est de 350 € par mois, et ce pendant 6 mois. Donc ça fait dire à quelques esprits chagrins que bien le chômeur anglais est le plus pauvre et le plus traqué d'Europe. Voilà, c'est ça le modèle anglais.
Et puis il faut rappeler quand même que la famille royale possède 60% des biens sur le territoire, ce qui est quand même intéressant.
Bon. Oui, une petite remarque, les anglo-saxons, les britanniques disent tous que leur système de compensation sociale est extrêmement violent et barbare, totalement inhumain comparé à la France. Ils apprécient énormément le mode de vie français de par cet aspect relativement solidaire. Et les Français disent que lorsqu'ils vont dans les pays nordiques, notamment du fait des forts impôts, et qui sont acceptés et compris par tous, notamment par exemple au Danemark, en Finlande ou en Suède, qu'ils ont un système qui est nettement moins répressif et liberticide. Donc je voudrais faire une remarque un peu historique, c'est que il faut savoir que après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un certain nombre de lords anglais qui souhaitaient, sous le modèle de la social-démocratie, effectivement mettre en œuvre un système comme la sécurité sociale en France, avec un État vraiment humaniste. Et en fait, c'est les néo-conservateurs et les libéraux qui, par l'entremise de gens comme Margaret Thatcher, ont cassé tout fait pour casser ce modèle social, notamment en insistant sur le fait que les syndicats usaient et abusaient du droit de grève.
Oui, il faut rappeler quand même qu'en Angleterre, avant Margaret Thatcher, le taux de syndicalisme était le plus élevé au monde, et que les syndicats étaient très très puissants, et qu'effectivement ils avaient brisé le gouvernement précédent, Margaret Thatcher, qui était un gouvernement conservateur, et que Margaret Thatcher en avait été marquée, meurtrie, et que c'est ce qui lui avait... C'est cela qui avait théorisé son besoin de casser les syndicats.
C'est donner des ailes pour pouvoir justement.
Voilà. Et c'est vrai qu'elle a complètement détruit les syndicats là-bas, quoi.
Tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Thierry, tu.
Oui. Et est-ce qu'on n'aurait pas peur en France de voir arriver des Anglais de 25, à partir de 25 ans jusqu'à 60 ans pour. On n'a plus d'indemnisation en Angleterre, on ne peut plus vivre. On va venir dans le Nord, on va essayer de voir dans le Nord ou dans l'Ouest de la France.
A priori, il y a beaucoup d'Anglais qui font déjà ça parce qu'ils achètent tout le, je sais pas, le Luberon peut-être ou toutes les forêts, mais ils font ça aussi pour la qualité de vie. Mais en l'occurrence, ben pour les pauvres petits Anglais, il y a un petit problème, c'est qu'ici il y a pas de boulot. Alors voilà. Mais ouais, c'est peut-être que l'Europe permettra une harmonisation par le haut. On peut rêver.
Ouais, mais
peut-être par le bas des jeunes vont dire, sociaux.
On a le droit au RMI en France, on va venir prendre le RMI en France.
Non, le RMI est réservé aux Français, seulement aux Français.
Très bien, je crois qu'on a un coup de téléphone, je crois que c'est Marc Moreau de AC qui est au bout du fil. Allô ?
Oui, bonjour.
Salut Marc.
Bonsoir Marc.
Salut Marc.
Bonsoir.
Je t'écoute Marc, alors dis-moi.
Ouais. Allô ?
Allô ?
Oui, oui. Bah, j'ai entendu que vous faisiez libre antenne.
Oui, ouais, alors absolument. Justement, bah, profites-en pour nous dire tout ce que tu as sur le cœur, alors.
Oh là là. Oh là là.
Oh là là.
Eh ben, ce que j'ai sur le cœur. Mais non, j'appelais pour parler de la négociation sur le contrat de travail, mais
bien sûr.
Ce que j'ai sur le cœur. Vous avez entendu, là, que le président, il touche... c'est le canard enchaîné, là, qui a sorti ça, comme quoi le président, il touche non seulement son salaire réévalué de 200%, alors les... Je me souviens que le RMI, c'est 1,6 de 200%. Et puis en même temps, il touche son ancien salaire de son ancien boulot de, en tant que
maire.
Ministre de l'Intérieur. Et donc, lui, il cumule plein de thunes et on ne sait pas bien pourquoi. Quoi.
Oui, c'est sûr.
Encore un qui fraude le fisc.
Il y en a un autre, c'est apparemment le décret là, sur le contrôle
des
du RMI, de la CMU complémentaire, de l'API et puis des autres allocations familiales sous condition de ressources. Elle serait... on l'attend, enfin bon, en espérant qu'ils sortent pas, mais là, la semaine prochaine, ils vont sortir le rapport comme quoi il faudrait dépénaliser le droit des affaires quand les patrons font des arnaques sur le dos des salariés ou sur le dos de l'État, mais enfin, parfois, c'est nous aussi, quoi. Eux, ils seraient dédouanés, ça serait pas grave, et en même temps, il s'agirait de durcir pour nous, quoi.
Oui, c'est ça, ouais. C'est le monde à l'envers, hein, qu'est-ce que vous voulez.
Ça, c'était les coups de gueule, puisque je
D'accord. Alors, tu as quelque chose à dire sur justement ton avis sur les accords donc paritaires MEDEF syndicats sur la modernisation du marché du travail.
Alors, moi, j'ai raté ce que vous avez dit au début. Et alors, vous avez dû dire plein de choses. Et
très intéressant.
De dire des trucs que vous avez déjà dit. Pour pas recommencer, je sais pas. Moi, il me semble qu'il y a un truc qui est important quand même, c'est que là, c'est la fin du premier round. C'est celui de la négociation avec les partenaires sociaux. Et ensuite, il va y avoir le passage de la loi. Et à cette occasion-là, peut-être qu'on aurait l'occasion, si on s'en donne les moyens, de vérifier le rapport de force. Est-ce que vraiment, comme disent les syndicats, il n'y avait pas moyen d'obtenir mieux? Est-ce que vraiment on va laisser les parlementaires libéraux s'arranger avec le texte et puis peut-être nous glisser quelques vacheries en douce qui nous fera quelques temps pour repérer? Ou bien est-ce que vraiment, comme pour le CPE, on va dire il y en a marre, on veut des vrais droits? Il y en a marre de la précarité, et puis voilà, quoi. Parce que, bon, eux, on va voir comment la pilule est digérée dans leurs organisations. Peut-être que ça va être compliqué. Peut-être qu'il y a des organisations, des syndicats, des branches professionnelles qui vont pas accepter tout ce qu'il y a dans cet accord. Et puis, surtout, les gens, ils sont pas tellement au courant. C'est un peu... Alors, ça vaut le coup de s'interroger, hein. Les syndicats, ils ont pas fait leur boulot. Nous, on a essayé de faire le nôtre.
Oui.
On a des petits moyens, bon, enfin voilà quoi, on a fait ce qu'on a pu, mais pour la deuxième phase, celle du passage au Parlement, là, tout le monde va être au courant. Tout le monde est au courant, il faudrait juste rappeler aux gens que l'histoire n'est pas bouclée et leur dire, enfin, que tout le monde comprenne bien que ça va se rejouer au printemps.
Oui.
Et à ce moment-là, se donner les moyens de... Peut-être qu'on va y arriver, enfin voilà quoi. Il y a cette deuxième échéance, et à mon avis, on a intérêt à y réfléchir. Et comme il va y avoir différents temps de mobilisation, la semaine prochaine, il y a à la fois des trucs sur le service public, le 24, les fonctionnaires qui vont se mobiliser pour le pouvoir d'achat, et je pars avec sur les trottoirs, il y aura des gens qui ne seront pas fonctionnaires, qui seront avec eux, soit pour la revalorisation des minima sociaux, des retraites, des salaires du privé, enfin plein de trucs. Et puis il va y avoir le forum social...
Mondial d'action, là, mondial d'action.
Le truc. On a l'occasion de faire passer l'information comme quoi c'est pas joué, quoi.
Moi, ce qui me fait un peu peur.
On n'a pas été mobilisé, mais si on est mobilisé pour le coup suivant, peut-être que. Voilà.
Ouais. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'avec le CNE, personne n'a bougé finalement. Alors, c'est vrai que ça concernait des entreprises de moins de 20 salariés, mais alors que c'était vraiment, à la limite, beaucoup, beaucoup plus scandaleux. Une période d'essai de 2 ans, virable à tout instant sans motif, il y avait vraiment de quoi hurler. Personne n'a bougé. Il a fallu quand même attendre que les étudiants soient concernés, comme à chaque fois, pour que d'abord eux ils descendent dans la rue et que les gens se sentent un peu concernés, on va savoir pourquoi. Et là, des fois on se dit bon que voilà tel qu'il est présenté le texte, tel que on nous serine ça depuis un moment, la modernisation du marché du travail, avant de faire des vagues, ça va être à part profiter d'autres occasions de grève, comme tu le disais sur la grève sur les fonctionnaires, ça risque de pas on risque d'avoir du mal, encore une fois, tellement finalement on est sectorisé tellement les réformes ne concernent telle catégorie, puis telle catégorie, puis telle catégorie, ce qui rend la lutte unitaire très difficile à mener. Quoi.
Et ce serait bien de pouvoir la faire, effectivement, cette lutte unitaire, hein, parce qu'en fait, ils sont bien unis, en fait, quelque part, hein, pour nous. Hein.
Ouais, oui, sauf qu'il y a 83% des personnes qui sont en CDI en France parmi les actifs, et donc, excuse-moi l'expression,
ouais,
un
ça,
peu
ouais.
Resserre mon cul ma gueule. Quoi.
Ouais, en fait, c'est pour les jeunes ou pour les gens au chômage, donc ça fait une petite minorité. J'ai une question, Marc, est-ce que tu as des informations sur le projet de décret de contrôle du patrimoine des RMI, des RMistes parce qu'en fait, apparemment, c'est un texte qui vient de sortir aujourd'hui. Oui. Enfin, qui n'a pas encore, mais dont la version a été établie aujourd'hui. Et finalement, on n'a pas tant d'informations que ça dessus.
Moi, j'ai pas vu qu'il était sorti. Hein.
Alors, oui. Nous, on a le texte de projet, on a le projet, mais
dont il y avait apparu tout à l'heure, oui.
Je posais vraiment la question, c'est de savoir jusqu'à quel point ils allaient réellement contrôler, la propriété du RMI, parce que ça prouve rien du tout, quoi. Ouais. À mon sens, par exemple, un propriétaire avait le droit jusqu'à maintenant de toucher l'allocation logement.
Bon, Peterson, je m'en. Donc, je vois pas pourquoi un RMI, il n'aurait pas le droit de toucher son RMI, sous prétexte que, je sais pas, il a une chaîne IFI chez lui. Et pourtant, c'est tout ça qu'on va mesurer quand même, on va rentrer chez. En fait, c'est une façon indirecte de contrôler le marché, le travail au noir éventuel du dit RMI. C'est-à-dire que tu rentres chez lui, tu vois un écran plat, plus, je sais pas, plus de stéréo, plus tout ça, bah tu dis toi, t'as pas pu obtenir ça comme ça, donc hop, je te.
C'est un cadeau, c'est un cadeau, monsieur le juge.
Non, mais moi, je, franchement, dans tous les. Dans tout, je prends cet exemple-là parce qu'en banlieue, dans tous les appartements populaires, donc populaires, puisqu'ils sont HLM, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est le cas. En fait, c'est presque le cadeau du pauvre, la télévision,
absolument,
et donc
absolument.
Ils sont. Tout le monde est équipé de vastes écrans plats et dont on sait parfaitement qu'ils ont. Qu'ils l'ont acheté à crédit.
Comme d'ailleurs aux États-Unis, la voiture. Et le luxe pour le.
Mais exactement,
le,
en fait.
Bon, dans le bon, c'est tous les mecs ont des grandes bagnoles, quoi. Alors
non, ce que je veux dire, c'est que ça prouve pas grand chose et ça ouais, prouve même pas grand, non plus
rien,
que
oui.
T'es un. Par exemple, quand t'as un logement de, je sais pas combien de mètres carrés qui coûte, donc, on va dire 800 euros qui revient à 800 euros de loyer, en fait. Et puis que t'es quand même au RMI, puisque t'as pas trop ton travail et que t'as plus de droits, que donc, on va te décider comme ça et sur quels critères que finalement ton patrimoine est trop important. Et pourtant, c'est vers ça qu'on. Apparemment, d'après le projet de décret, c'est vers ça qu'on va, si j'ai bien compris le texte.
Tu voulais rajouter quelque chose?
Non, juste, moi je crois pas qu'il soit sorti, après il va falloir voir s'ils osent le sortir, quand ils osent le sortir, et puis comment on arrivera à se défendre. Mais c'est vrai que c'est un truc grave, parce que, comme disait Ludo, là, ceux qui ont eu de bonnes heures, qui à un moment donné sont retrouvés propriétaires d'un truc qui vaut 800 euros par mois, et finalement, pour ceux qui habitent Paris ou dans les centres-villes, ça arrive vite, quoi. Ces gens-là, ils auront le choix entre vendre FISA ou bien je sais pas quoi. Et donc, ça va amener à ce qu'il y aura encore moins de RMistes dans les centres-villes. Ça va, et ça, c'est bien dans cette logique qu'on voit de pousser les pauvres dans les banlieues et dans les banlieues de banlieues et le plus loin possible. Voilà, et ça, enfin, non, c'est une sacrée catastrophe, ce machin.
C'est vrai, ouais, c'est terrible.
J'aurais bien rajouté que sur l'histoire de la négociation du marché du travail, il y a un truc où on a intérêt à alerter les gens qui bossent actuellement sur le fait que leur contrat de travail aussi est concerné. À la fois parce que ça sera plus facile de les licencier et ils auront moins de possibilités de contester leur licenciement, mais aussi parce que du jour au lendemain, le patron, là, il va pouvoir modifier les termes de leur contrat. Le discours des syndicats, c'est qu'ils ont réussi à encadrer tellement les mesures du patronat qu'elles seraient plus ou moins inoffensives. Par exemple, le contrat de mission ne concernerait que les techniciens et les cadres, cette fois-ci. Bon, excellent, bravo à eux. Mais sur la modification du contrat de travail, ce qui est écrit, c'est que au moment de l'embauche, il faudra préciser les parties qui ne sont pas négociables sans l'accord, qui sont pas modifiables sans l'accord du salarié. Alors on peut toujours se demander comment le salarié aura le rapport de force pour dire au patron que dalle, rien ne doit être négocié dans mon dos, rien ne doit être modifié sans mon accord. Mais en tout cas, tous les contrats qui sont en vigueur actuellement, il n'y a nulle part précisé ce qui ne doit pas être modifié.
Oui.
Donc du jour au lendemain,
il y aura des modifications.
Que le contrat, oui. Parce que le code du travail aura changé. Tous les contrats en cours vont être susceptibles d'être modifiés par le patron unilatéralement, quoi. Et c'est une sacrée menace, hein.
Ouais.
Parce que tous ceux qui ont peur dans leur petite boîte que le patron n'arrive pas à boucler les fins de mois, cette fois-ci, il va trouver le moyen de le faire, hein. Et ça va être sur leur dos, hein. Et on a intérêt à prévenir les gens, quoi. Ça concerne aussi ceux qui sont en poste actuellement.
Oui. Ouais. Bah, écoute, Marc, je te remercie pour ton intervention.
Merci à vous.
Voilà, on espère qu'on va se retrouver sur les marches ou sur les manifs, enfin je sais pas. En tout cas, c'est vrai que tu as raison, il faut vraiment qu'on trouve un moyen pour trouver une lutte unitaire un petit peu avec les autres groupes qu'on connaît, MNCP, APES, Solidar, etc. Parce que chacun dans son coin, c'est vrai que la lutte est moins, elle porte moins, quoi.
Donc, ouais, hein. Mais en même temps, là, le gros rapport de force qu'il faut constituer,
oui,
en dehors des organisations existantes, des grosses organisations existantes apparemment, parce que elles semblent être tellement mouillées dans l'histoire qu'il se pourrait qu'elles bougent pas du tout, ça pourrait rappeler ce qui s'est passé, par exemple, sur le traité constitutionnel, où les gens sont organisés eux-mêmes, ont étudié les textes, ont travaillé les propositions, et c'était compliqué, hein, c'était un texte bien plus compliqué que l'accord là sur le marché du travail. Donc peut-être qu'il faudrait trouver le moyen de refaire des collectifs locaux, se réorganiser localement en assemblée générale, en je ne sais pas quoi, et étudier les choses, se donner les moyens d'alerter les autres, de travailler les propositions alternatives, et puis de construire la mobilisation pour être fort au moment où, enfin un peu avant, mais surtout au moment où ça va passer à l'Assemblée.
Très juste. Bah, merci beaucoup Marc. D'ailleurs, je fais
merci
un appel.
Vous.
Oui. À bientôt Marc. Hein.
À bientôt.
Bonsoir.
D'ailleurs, je fais un appel à tous ceux qui nous écoutent, donc auditrices et auditeurs qui veulent éventuellement nous donner un coup de main pour monter ces collectifs locaux ou pour participer à des choses parce qu'ils en ont marre de cette politique de répression, hein, c'est carrément
de
notre
social.
Voilà, c'est un peu ça. Donc, de venir nous rejoindre ou par l'intermédiaire de cette radio, de retrouver AC ou les autres mouvements d'ailleurs du même réseau, plus ou moins. Donc, n'hésitez pas à venir nous appeler, à venir dans cette émission pour parler, pour dire ce que vous en pensez et puis participer à nos actions éventuellement. Je vous remercie. Donc, je vais, on va parler, puisqu'on parlait justement de répression sociale, on va en parler un petit peu avec toi, Christophe. Alors, qu'est-ce que tu, le texte que tu as sous les yeux là, c'est concerne donc la répression sociale.
Eh bien, deux étudiants ont payé très cher leur grève contre la loi Pécresse qui concernait la loi sur l'autonomie des universités, puisque l'histoire pourrait c'est un article de Libération. L'histoire en elle-même pourrait s'intituler « Comment faire obstacle à la contestation étudiante ?» Virgule mode d'emploi. En effet, le mode d'emploi est relativement simple. Identifier d'abord les étudiants grévistes, c'est facile, ce sont eux qui parlent le plus aux âgés et qui répondent aux questions du journaliste. Puis débarquer chez eux au petit matin, mettez-les en garde à vue pendant 48 heures, puis ensuite en examen et placez-les sous contrôle judiciaire. Avec interdiction formelle de retourner à la fac, de parler à leurs professeurs, de communiquer entre eux, de sortir de leur département. En l'occurrence, les Pyrénées-Orientales. Si possible, prenez ces mesures, bien évidemment, juste avant les vacances de Noël. Et quand vous faites une perquisition à leur domicile, parce que ce sont des grands délinquants, emportez leur ordinateur au passage, demandez-leur leur ADN, comme ils vont refuser ce flicage et ce fissage, ce sera un chef d'occupation supplémentaire. Eh bien, ce 1984 à l'envers, le meilleur du monde, est arrivé à Yann et Pierre, deux étudiants perpignanais au cœur de cette histoire, qui sont âgés de 24 et 22 ans. Ils sont accusés d'outrage envers leur professeur. Deux profs ont déposé des plaintes nominatives contre Yann et trois l'ont fait contre Pierre, évoquant des insultes. Alors maintenant, on met les gens carrément en prison administrative parce qu'ils insultent. Alors on pourrait leur mettre des amendes, mais prison, c'est mieux. Donc, ces gens-là ont été un peu des leaders et des personnes actives au moment de la loi sur la réforme des universités. Et voilà ce qui s'est passé. L'instruction aujourd'hui peut durer un an, voire plus. L'avocat de ces deux personnes, Maître Christophe Gau, a signifié que ces mesures étaient totalement liberticides et disproportionnées, évidemment. L'avocat général, lui, dans la première instance, a demandé le maintien du contrôle judiciaire, qualifiant ces deux jeunes gens d'agitateurs professionnels. Et en fait, le fait qu'ils n'y peuvent plus aller à l'université, c'est une peine dissimulée. Donc, c'est un véritable scandale. Voilà comment aujourd'hui les partis conservateurs et la droite traitent toute contestation en France. C'est un exemple excellent. Donc, vous pouvez signer la pétition et rejoindre les membres du comité de soutien Justice pour Pierre et Yann. Voilà, il y aura leur mesure, leur contrôle judiciaire sera connu au final le mardi 22 janvier.
Très bien.
Et moi, je serais Madame Pécresse et les gens qui pondent les lois, plutôt que de réformer l'université, je supprimerais les étudiants. Je leur empêcherais de faire des études, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait.
Alors, je voulais juste une petite chose. Yann et Pierre, comme par hasard, sont de la coordination des groupes anarchistes et aussi des syndicats sud-étudiants de Perpignan. Voilà. Donc voilà, c'est des gens proches des idées de l'extrême gauche et donc c'est l'ennemi quoi.
Merci Christophe. Tu vas donc nous parler maintenant effectivement du projet de décret sur l'évaluation des biens des RMI, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Marc.
Oui.
Alors ça dit quoi cet avant-projet?
Cet avant-projet, moi je trouve un peu fumiste et plutôt alarmant au niveau des RMI parce que il va y avoir une évaluation faite. Peut-être par les CAF, vu que c'est géré par les CAF ou les directions départementales qui vont envoyer quelqu'un à la maison faire une évaluation de ce que tu as comme bien et ce que tu dépenses.
D'accord.
Même sur les dépenses...
Donc ils vont faire un listing de tout ce que tu as chez toi pour pouvoir savoir si tu travailles au noir ou pas, c'est ça?
Alors, non, ce qu'ils vont faire chez toi, ils vont regarder si tu as un frigo. Alors même si tu ne l'as pas acheté qu'on t'a donné, ils vont faire une évaluation du prix qui vaut. Nous, on fait l'évaluation de ta chaîne IFI, même si tu n'as pas acheté contre les données, parce que on t'en a fait un cadeau pour Noël. Ils vont faire une évaluation là-dessus. Sur ta télé, ils vont faire une évaluation si on te l'a donné aussi. Ils vont regarder ce que tu payes en électricité, en eau, en gaz, au téléphone. En plus, ce qui est plus con, ils vont te dire, et pour aller voir votre famille, vous prenez combien de fois le train par an?
Et combien vous payez de tickets, etc.
Et combien vous payez de tickets? D'accord. Ça va aller jusqu'à là?
Oui.
Ils vont aller jusqu'au vice. Moi, je trouve ça aberrant.
Oui. C'est un huissier qui va faire ça, en fait.
Ouais, c'est un huissier, ouais.
Et de plus, alors, c'est encore le plus grave encore, c'est ceux qui ont un appartement qui leur appartient. Donc, ils vont faire. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'appartement, qui sont juste locataires, en location, ils vont regarder combien vaut l'appartement.
Oui.
Si jamais t'avais acheté l'appartement, ils vont t'en faire une estimation. De là, ils vont faire, pour ceux qui ont l'appartement qui leur appartient ou la maison qui leur appartient, ils vont faire une évaluation sur le prix de la maison.
Oui.
Mais par contre, pour un érémiste qui a juste des biens comme ça, si ça dépasse de moitié ou c'est égal pratiquement à la moitié annuelle du RMI par an.
Oui.
Et ben, on te sucre ton RMI.
D'accord.
Carrément.
C'est un scandale. Moi,
c'est la moitié de ton revenu annuel.
Alors,
oui.
Ok.
Bizarre comme mode de calcul.
Merci beaucoup, Thierry. On va écouter maintenant Arnaud qui est au bout du fil. Allô, Arnaud?
Ouais, salut, bonjour.
Salut, bonsoir. Alors, une petite revue de presse rapide. Alors, c'est quoi ta petite revue de presse, alors?
Je me rappelle un truc, c'est que JP avait promis à son apogée avec Chirac de simplifier l'administration française. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Ce que je vous explique, par exemple, vous touchez l'allocation adulte handicapé ou une prime ou une pension d'invalidité ou autre, et on vous sucre la CMU.
Oui.
Donc vous prenez une mutuelle, mais il y a des chèques appelés chèques santé qui servent à rembourser la mutuelle. Donc, on se retrouve dans la position où on touche plus le CMU, mais on est assez pauvre maintenant pour la toucher.
Oui.
Donc, c'est complètement sûr. Et je veux dire, si, je veux dire qu'on foute la paix à Sarkozy sur sa vie privée, c'est pas ça qui fera avancer le CMU public. Ça, tout le monde est d'accord, on s'en fout. Hein. Même les journaux disent d'information, ils font ça, c'est nul à chier, quoi.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Et sinon, faut être vraiment con pour donner des farines animales à des herbivores.
Oui.
Et parallèlement, faut être vraiment con pour donner une centrale nucléaire à un tyran, despote. Faut être vraiment con, monsieur le président.
Merci beaucoup Arnaud. Alors cette émission se termine. J'ai deux petites annonces avant de rendre l'antenne à l'émission qui nous suit. Alors nous avons le 16 février un forum débat de la précarité et de la pauvreté. Alors ça se situe à l'hôtel de ville Auditorium le 16 février 2008, 5 rue Lobeau, dans le 4e arrondissement. C'est de 9h à 18h à l'initiative du collectif national pour les droits des femmes. Donc allez-y, c'est le 16 février, hein, donc c'est 4 rue Lobeau. Voilà. Et nous avons la Journée mondiale d'action. Donc c'est sur toute la planète, toute la planète à Paris. Hein, c'est le Forum social mondial. Hein. C'est des témoignages de lutte, c'est de la musique, c'est des stands, c'est des débats. Voilà, c'est donc tous les altermondialistes qui vont se retrouver là. Allez-y, c'est le 8 janvier. Alors ça se trouve exactement, c'est à midi à Ménilmontant. Hein, donc le 26 janvier, à midi à Ménilmontant. Allez-y tous. Voilà. Cette émission se termine. Je vous remercie, messieurs dames, de l'avoir suivi. Merci, messieurs, de l'avoir faite. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, au revoir.
Bonsoir à tous.